Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone, un programme chargé aujourd'hui avec un essai qui décrypte nos émotions, un roman qui nous emmène à Hong Kong et un célèbre chanteur qui publie son premier livre. Alain Berenbaum a une solide réputation en Belgique, mais pas que. Lauréat du prix Rossel en 2013, cet avocat de métier publie un nouveau roman efficace. Il critique au passage, sans concession, la société chinoise à Hong Kong. Le docteur Philippe Jamais est aussi avec nous pour un essai inattendu sur les émotions qui parfois nous rendent complètement fous. Un livre qui décrypte nos débordements, mais qui célèbre aussi la vie. Et puis nous sommes très heureux d'accueillir un nouvel auteur, le chanteur Raphaël s'est lancé dans l'aventure d'un recueil de nouvelles, des récits sensibles et profonds mais assez sombres. Raphaël sera aussi au piano dans notre studio pour une version inédite de l'un de ses derniers titres en date.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. C'est le retour aujourd'hui du méchant Grégoire Courtois en France. Les éditeurs et auteurs n'attendent que lui. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Vous êtes un libraire à Auxerre dans la librairie Oblique.
Tout à fait.
Tout va bien.
J'ai accumulé plein de rage.
Plein de rage, oui. Ça promet, on verra ça tout à l'heure. N'affolez pas les invités quand même, s'il vous plaît. Bonjour Laura Sanchez.
Mais bonjour tout le monde, bonjour Emmanuel.
Vous êtes toute douce, vous êtes magnifique, vous êtes libraire suisse à Genève. Mais oui, ça compense, dans la librairie du Boulevard. Très belle librairie à Genève. En Belgique, c'est Annick Dor qui est avec nous, libraire à la Hulpe dans la librairie de la Mazerine. Bonjour chère Annick.
Bonjour cher Emmanuel.
Libraire culte de l'émission, Annick, on en parlait la semaine dernière. Et au Canada, oui. C'est le frétillant attaquant Jérémy Lagnel, libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Je vais toujours très bien de ce côté-ci de l'océan.
Très bien, vous jouez au hockey ?
Oui, parfois.
Oui, voilà, très bien.
Mais il le faut.
Oui, bon, aucun rapport. Merci Jérémy, merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Votre premier livre, premier recueil de nouvelles, est paru chez Gallimard dans la collection Blanche. Vous êtes heureux ?
Très heureux, très ouais. très heureux.
Sublime.
Ouais, c'est merveilleux, il y a vraiment ce prestige de l'uniforme comme ça, c'est tellement beau, élégant, c'est trop beau.
C'était votre rêve, vous avez choisi ça ou...
J'ai un camarade d'école, ouais. On était vraiment au lycée ensemble, le parrain de mon fils justement, qui est éditeur à la Série Noire chez Gallimard, qui dirige la Série Noire. Donc quand j'ai écrit les nouvelles, je lui ai adressé.
D'accord.
Et puis il m'a aidé, il a fait vraiment le boulot d'éditeur et ensuite, comme c'était vraiment pas de la Série Noire, il a proposé de les donner au ouais. comité de lecture.
Ah, c'est venu comme ça.
Voilà. Ouais. Et ensuite, je sais pas, ils ont suffisamment aimé pour le publier.
Joli chemin.
Et je suis très content. Très content.
Bah, je comprends. On commence toujours cette émission par une histoire personnelle, anecdote étonnante que je découvre en même temps que tout le monde. Raphaël, vous avez carte blanche, c'est votre tour. Que voulez-vous transmettre?
J'ai un peu pris au dépourvu parce que j'en avais une et là, comme vous m'avez parlé de la série blanche, une ouais. autre m'est venue immédiatement.
Ah mince.
Non, j'ai fait mon service de presse la semaine dernière ouais. Chez Gallimard.
Ouais.
Et moi, je suis un peu habitué à la musique comme ça. Et déjà, je rentre dans cette salle qui est mythique où Camus a signé ou peut-être même Proust a signé, je sais pas. Et puis, en fait, il y avait énormément d'écrivains. C'est une toute petite pièce. Et le même jour, il y avait peut-être 6 ou 7 écrivains qui faisaient la serviette. Chacun arrivait avec ses livres, signait le truc. Mmh. On n'avait plus de place où se mettre. Enfin, ça fait un petit vertige. En même temps, ils étaient tous très sympas.
Vous étiez à côté de qui?
Je ne me souviens plus exactement des noms. Mais je me souviens. Non, mais c'est-à-dire que je me souviens à peu près des noms, mais pas suffisamment pour pas les écorcher. Là,
d'accord.
Je pense que ça va être terrible pour moi. Ça sera une nouvelle anecdote très embarrassante.
Et elle est où la chute de l'histoire? C'est que vous vous souvenez plus de.
Et c'est la raison pour laquelle j'étais pas à bord du vol MH570. Vous voulez une chute comme ça vraiment?
Quel rapport avec le vol
Non, mais je sais pas, vous voulez une chute quoi.
Non, je sais pas, je vous demande. Non,
un truc impressionnant.
Ça. D'accord, non, vous étiez impressionné.
Oui, il n'y a pas de chute. Non, c'est juste.
Très bien. Ça commence fort, hein, moi je trouve, cette semaine aujourd'hui. C'est pas mal, hein, moi j'aime bien ces histoires.
C'était une histoire nulle. Ça,
non, non, Raphaël, franchement, elle était bien.
J'en ai plein d'autres, si vous voulez.
Bah, tout à l'heure, Raphaël est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Alain Berenbaum.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un prix Rossel, le Goncourt belge que vous aviez reçu en 2013 pour Monsieur Optimiste. Votre nouveau roman Hong Kong Blues est paru chez Genèse Éditions et vous racontez l'histoire d'une grande manipulation dans une région très particulière, une ville laboratoire, capitaliste, figée aussi dans les traditions. C'est ça Hong Kong ?
Hong Kong est un mélange où les choses se mélangent pas toujours entre la soif d'argent, grande soif d'argent, et puis la volonté d'occidentalisation et d'être un peu distant avec la Chine continentale. Mmh. C'est une ville qui est en pleine modernité aujourd'hui en 2017, c'est-à-dire que on est à la fois fasciné et angoissé par ce qui s'y passe.
Alors, il y a un écrivain qui se retrouve coincé à Hong Kong, sans passeport, empêtré dans une affaire de meurtre. Il va servir d'exemple. C'est une sorte de piège qui va permettre aux autorités de montrer finalement une image intègre et respectable au monde occidental. Il faut toujours rassurer le monde des affaires d'une manière ou d'une autre.
Oui, alors j'ai été en voyage professionnel à Hong Kong et donc j'ai connu la justice hongkongaise, mais du bon côté de la barre, heureusement. Mais en effet, il y a un mélange assez étonnant de la police, les autorités judiciaires sont extrêmement attachées au formalisme. C'est une caricature pratiquement de l'Angleterre de l'époque d'Agatha Christie. Et puis, en même temps, il y a une dureté dans le fonctionnement, dans la vie, dans le comportement entre les gens. Et j'ai trouvé ça très, très passionnant sur le plan romanesque de mélanger ça.
Ouais. Vous écrivez, Alain Berenbaum, aucune société n'aspire plus à la normalité que Hong Kong,
ouais,
surtout depuis le départ des Britanniques. Notre mode de vie est organisé pour rassurer ceux qui sont établis ici, autant que ceux qui investissent dans nos banques et nos sociétés financières. Nous devons être plus normaux qu'ailleurs pour survivre.
Voilà. Et cette espèce de schizophrénie est tout à fait passionnante pour un romancier. C'est une matière magnifique avec laquelle on peut jongler.
On va donner la parole à notre libraire suisse qui a lu attentivement votre roman, Alain. Laura Sanchez.
Oui, bien, en lisant ce livre, on se sent très vite comme votre personnage, c'est-à-dire une toute petite mouche prise dans une immense toile d'araignée. Et j'ai trouvé ce roman très agréable et prenant. Et puis, ben, y a des rebondissements qui sont parfois parodiques, tellement ils sont inattendus, mais on se laisse complètement faire. Et puis, ben, moi, je vous avoue, ayant passé un peu de temps à Hong Kong, j'ai traqué les exotismes imprécis et puis j'en ai pas vraiment trouvé.
Ah. Et c'est vrai que dans ce roman, c'est une critique finalement sociale, dans une ville, dans un pays, qui sont comme ça dans un équilibre fragile. Les libertés sont bafouées. En tout cas, c'est le regard occidental hein, qui révèle ça.
Oui, c'est un regard occidental. Le personnage principal, Marcus Deschanel, est un auteur qui réussit pas très bien, un journaliste pas très...
Moyen, ouais.
ouais. Mais c'est à travers lui que le lecteur voit Hong Kong, donc c'est aussi une vision relativement subjective, et comme vous dites très bien, une vision occidentale qu'on peut avoir du Hong Kong d'aujourd'hui. J'ai pas fait un essai non plus, c'est un roman.
Ouais, et mais donc, ça frôle hein, d'ailleurs, hein, parfois. Ça frôle l'enquête, quand même.
Et donc c'est important de ne pas se juger non plus ce qui se passe, mais plutôt de restituer.
On va voir d'ailleurs que la presse et les écrivains ne sont pas grand-chose avec le son du monde de la semaine. Le principe, une musique habillée d'une voix, une voix qui lit un extrait de votre roman, c'est une surprise, Alain Berenbaum. Et c'est Raphaël qui va lire en direct devant vous un extrait de Hong Kong Blues sur cette musique.
Journaliste, écrivain, c'est la même chose. La liberté d'écrire est à vos yeux une valeur cardinale. Je ne peux que hocher la tête. C'est la norme dans la culture d'un pays qui s'est jadis étendu sur plusieurs continents et a entendu imposer ses valeurs à toute la planète. Cette époque est révolue. Ce qui est vrai à Paris, Lille ou Londres ne l'est plus nécessairement à Pékin ou à Hong Kong. Il faut d'ailleurs relativiser la force de ces valeurs, même à l'époque où l'Occident dominait le monde, dit-il cette fois, avec un véritable sourire. Lorsque nos maîtres français ou anglais nous enseignaient l'importance des libertés, ils n'entendaient pas un instant que nous en usions. Ces beaux principes leur étaient réservés. Je comprends qu'ils soient utiles dans votre société. La liberté de la presse, par exemple, est nécessaire, paraît-il, pour assurer le fonctionnement de votre démocratie. Ailleurs, au contraire, elle peut constituer un obstacle à son épanouissement.
Très belle lecture de Raphaël, applaudi par Alain Berenbaum en studio. Félicitations Raphaël.
Merci, c'est très gentil.
Merci beaucoup.
On m'a pas applaudi pour une lecture depuis le CP, je crois.
C'est ça.
Je suis très ému.
Une nouvelle carrière.
Vous connaissez Hong Kong vous-même, Raphaël ?
Non, mais ma femme a été à Hong Kong.
Ah oui.
Elle a une anecdote terrible à Hong Kong, si vous voulez une anecdote.
Allez-y.
Elle était dans un hôtel, je crois le grand hôtel de Hong Kong. Et il y a un couple d'hommes qui sont morts dans une chambre d'hôtel. Ils sont morts, les deux, ils sont suicidés dans la chambre de l'hôtel juste à côté de sa chambre. D'accord. Donc elle m'a appelé en disant je me sens pas très bien dans cette vie. Je suis un peu angoissé. Ben, c'était terrible.
Ouais, c'est terrible.
Ça rejoint le roman, là.
Oui, alors, ça rejoint le roman. Oui, parce qu'il y a des morts, Albert Einbaum, dans votre roman.
Je ne sais pas s'ils sont suicidés ou s'ils ont été assassinés, mais enfin, ils sont morts.
C'est horrible, votre histoire, Raphaël. Vous nous avez plombé l'ambiance. Non, mais alors, le roman d'Alain Berenbaum est un peu comme ça parce qu'il y a un meurtre et votre personnage se retrouve empêtré là-dedans. Hein. Donc, il est un peu coincé parce qu'il n'a plus de passeport. On se dit peut-être.
Et pas d'argent, parce qu'il était là pour 2-3 jours.
Voilà, peut-être qu'il est impliqué dans ce meurtre. On n'en sait rien. En tout cas, votre personnage est un pantin manipulé. Et puis, les avocats ne semblent pas avoir beaucoup de pouvoir. Les écrivains non plus. C'est votre grand cauchemar, ce livre, Alain, vous, l'écrivain et l'avocat.
Oui, j'avoue que j'ai mis sans doute, mais je parle devant un psychiatre, donc c'est parfait.
Oui, qui est juste à côté. Ouais.
Je vais me coucher.
Philippe Jeannet, qu'on retrouvera tout à l'heure.
C'est vrai qu'il y a sans doute un certain nombre de inconsciemment un certain nombre de fantasmes personnels et d'avocats. Encore, cet avocat est particulièrement antipathique. Hein, si je me vois comme ça, alors je pense que je peux arrêter.
Vous laissez planer plusieurs fois cette aseptisation de Hong Kong. Par exemple, la disparition des parfums qui, dites-vous, jadis embaumaient la ville.
Oui, Hong Kong, ça veut dire le port au parfum.
Voilà. Un décor de science-fiction, vous décrivez comme ça tout au long du livre. Comment les Chinois jugent-ils cette ville, ceux de Pékin par exemple? Comment ils voient Hong Kong aujourd'hui?
Ceux de Pékin, je ne sais pas. J'ai eu des contacts uniquement avec des Chinois de Hong Kong. Et les Chinois de Hong Kong sont extrêmement méfiants des Chinois du continent, non seulement pour des raisons politiques, mais traditionnellement. Donc, ils ne veulent pas que les Chinois viennent se mêler de leurs histoires à eux. Ils se considèrent comme un autre peuple que les Chinois continentaux. Et donc, il y a une véritable méfiance réciproque, qui est d'ailleurs un des moteurs du livre ici et du dénouement, attirant ces méfiances, parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et en même temps, il y a une espèce de jalousie entre la Chine continentale et la Chine.
Un choc des cultures.
Il y a un choc des cultures, absolument. Ouais.
Alors Marcus doit s'échapper de Hong Kong avec des rencontres faites sur place. Il va tenter de sauver sa peau. Il lance des appels au secours en France. Il se souvient aussi de son passé. Il y a des allers-retours comme ça. On retrace l'histoire, le parcours, la vie de Marcus. Et comme ça, l'air de rien, Alain Berenbaum, vous êtes un gros malin parce que vous rendez hommage aux libraires. Avec un libraire de Tulle qui a été le seul à croire en Marcus, avec son roman qui a fait un flop total, sauf que lui en a vendu 300.
Voilà. L'intérêt, c'était aussi de montrer que le personnage de Marcus Deschanel, qui se présente un peu comme un personnage flamboyant, qui a commencé très fort comme romancier, son premier roman est un grand succès, et puis peu à peu, hyper prise, ses romans n'accrochent plus. Il faut dire que le dernier s'appelait « Une hirondelle ne fait pas le printemps », c'était pas malin comme titre. Et c'est parce qu'il sombrait qu'il est parti justement à Hong Kong. Ouais. Et ce tome qui sombre est en train de découvrir une île soi-disant mirifique, le paradis du 21e siècle, et qui est en train de sombrer aussi. Et donc j'ai bien aimé cette confrontation.
On va voir ce que les autres libraires ont pensé de votre roman, Alain Berenbaum. France ou Belgique, on commence par qui?
Belgique,
allez, allons-y. Ouais. Annick Dor,
chez nous.
Alors moi, ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant, c'est justement toute cette analyse géopolitique que vous faites de Hong Kong et tout le portrait des tiraillements justement entre la Chine continentale et ces deux villes-états. Ça permet, je trouve, au lecteur de vraiment s'immerger dans un milieu et dans une histoire qu'il ne connaît pas forcément. Ensuite, ce qui m'a frappé aussi à la lecture du roman, c'est tout le dédale des rebondissements, les jeux de tromperie, de faux-semblants, ce labyrinthe de pistes et d'hypothèses. Alors l'avantage, évidemment, c'est que ça fait tenir en haleine, ça donne du punch, du tonus, ça bouge. Le revers de la médaille, en revanche, c'est un petit peu le risque de perdre le lecteur. Moi, ça a été, mais j'avais le sentiment quand même que le risque était présent.
Grégoire Courtois, pour la France, êtes-vous d'accord?
Oui, à peu près, parce que c'est vrai que c'est un exercice de style, j'ai envie de dire, très risqué, parce que l'écrivain en panne d'inspiration qui débarque dans un pays étranger, c'est carrément un style à part entière qu'on a vu souvent dans la littérature. Moi, je trouve que l'exercice est plutôt bien réussi. Ça tient beaucoup par le style de M. Berenbaum qui, justement, a une espèce de... On a parlé d'aspect parodique et cocasse, et c'est vrai que ça tient beaucoup le lecteur. Et puis, à côté de ça, je me suis dit, mais alors, c'est quand même une histoire qui est complètement sombre, étouffante, sinistre et même hyper angoissante, et vous réussissez quand même à en faire un divertissement, somme toute assez léger, moi, j'ai trouvé, et très agréable.
C'est très divertissant, effectivement, Alain Berenbaum. Il y a aussi ce personnage haute en couleur, Madame Choi, qui explique à Marcus qu'en Chine, les citoyens ne parlent pas d'eux. La population est au service de la société, même les artistes.
Oui, c'est ça. C'était intéressant à travers le personnage de Madame Choi et de Monsieur Choi, qu'on a lu tout à l'heure, qui viennent de Chine continentale, de comparer les approches culturelles et politiques presque, les modes de vie, enfin le mode de pensée qui coexistent dans cette île qui est Hong Kong, où à la fois coexiste un mode de pensée collectif hérité d'une tradition chinoise qui remonte bien avant le Parti communiste, et le mode de vie occidental que les Anglais ont insufflé sur la culture hongkongaise. Mmh. Et ce mélange est tout à fait intéressant parce que ça dérape dans tous les sens.
Mmh. Marcus, dans ce choc culturel, il est complètement perdu. Il n'arrive plus à discerner le vrai du faux. Et de la grande manipulation, on passe à la grande hallucination.
Oui, c'est vrai. Vous savez qu'il y a une tradition dans le roman belge du fantastique, et donc il y a aussi une tradition chinoise, comme vous le savez, des fantômes et dans la littérature chinoise d'ailleurs qui est très présente. C'est le lien entre la littérature chinoise et la littérature belge, vous voyez.
C'est ça. Et vous l'avez senti vous-même à Hong Kong quand vous étiez là-bas?
Oui, parce
ce flou comme ça, permanent.
Oui, parce qu'il y a ce mélange entre la volonté de restituer la tradition chinoise, presque parfois de manière cliché, et en même temps cette volonté d'être extraordinairement moderne, financier, et ce mélange est tout le temps présent dans la société chinoise d'Hong Kong.
Très bien, merci beaucoup Alain Berenbaum.
Merci.
Vous restez bien sûr avec nous, votre roman Hong Kong Blues est paru chez Genèse Éditions. Bonne chance pour ce nouveau livre.
Merci.
À suivre, ces émotions qui nous rendent fous avec le psychiatre Philippe Jamais. Le chanteur Raphaël est aussi avec nous pour son premier recueil de nouvelles paru chez Gallimard et pour un titre joué au piano dans nos studios tout à l'heure. Avant cela, voici le grand retour de Jane Birkin avec une chanson de Gainsbourg de 1978 qui a été réinterprétée avec l'orchestre symphonique de Montréal. C'est tout nouveau et c'est dans la librairie francophone.
Zazie a sa visite aux eaux. Zazie, suçant son zon, s'amusait de verrison d'Isidore Ison. Quand zut un vent blizzard, fusant de son falzar, voici zigzagant dans les airs asies et semblait un oiseau. Des îles épies aux ombres, paparazzi zigoula, visionnaire de skets et de mozart, drôle de zigoto, zioteur de jambes blasées, mateur de photos, zozé. Survolant chimpanzés, gazelles, lézards, zébus, buses et grizzlies d'Asie, l'oiseau des îles épies aux ombres, pas l'autre zèbre, bonne zigzazie, le fusillant de bisous, lui fait voir son bazar, son zip et son zippo. Fondu de Arjou, Scalzo.
Jane Birkin qui reprend exercice en forme de Z. C'est le retour musical de Jane Birkin sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vous présentent, comme chaque semaine, les coups de gueule et les coups de cœur. On commence avec Laura Sanchez dans le rayon des livres pour la jeunesse, avec justement un coup de gueule, Laura.
Ah bah oui, ma foi, aujourd'hui, un coup de gueule. Sur un livre paru dans une vénérable maison d'édition romande et signé par un tout aussi vénérable duo d'auteurs. Attention. Le Président du Monde, signé Albertine et Germano Zullo, est paru à la joie de lire, aurait pu être une critique subtile du pouvoir. Car, à mon avis, dire aux enfants de se méfier du pouvoir est un geste militant et très audacieux. Mais voilà que notre Président du Monde, en parallèle à ses soucis de président, et surtout dans les jupes de sa mère, et le fil narratif est au final un petit peu emmêlé. Oh, mais c'est toujours si bien ce qu'ils font d'habitude, les Zullo, vous trouvez pas ?
Bah oui, c'est ça. Alors c'est... Ça vous a pas plu du tout, en fait, c'est ça ?
Non, pas tellement.
Non, pourtant, référence hein, de la littérature jeunesse.
Oui. Hein. Ma foi, faut oser des fois un peu gratouiller les références.
Bah oui, bien sûr, bien sûr. Personne n'est à l'abri de la critique, hein, ça, on est bien placé pour le savoir. Germano Zullo et Albertine aux éditions La Joie de Lire. Merci beaucoup, Laura. Dans le rayon des bandes dessinées, on part en Belgique avec Annick Dor. Coup de gueule ou coup de cœur, Annick ?
Non, tout à fait coup de cœur. Moi, je me suis pris une vraie claque, avec une bande dessinée belge qui est extrêmement épurée et onirique. Alors, elle a reçu le Fauve d'Or à Angoulême et il s'agit donc de Paysages après la bataille de Philippe de Pierrepont et Éric Lambé. Alors, une bataille intime qui se passe dans le silence, celui d'une mère dévastée par la mort de sa fille. On est face à un dessin absolument magnifique qui frôle l'abstraction par moments et qui dit avec une grande justesse toute la douleur, mais aussi la reconstruction, parce que contre toute attente, c'est un album plutôt lumineux. En tout cas, on en ressort complètement chaos, donc je le recommande vraiment chaudement.
Grande œuvre qui a reçu le Fauve d'Or du meilleur album 2017 au dernier festival de la BD d'Angoulême. Paysages après la bataille d'Éric Lambé et Philippe de Pierrepont, c'est chez Frémok.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Philippe Jamet.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans la librairie francophone.
Merci.
Quand nos émotions nous rendent fous, c'est le titre de votre essai paru chez Odile Jacob. Vous avez dirigé pendant 20 ans un service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte. Ces émotions qui génèrent parfois des excès de folie, voire des maladies mentales, elles prennent leur source dans l'enfance. Les émotions se fabriquent, se construisent en fonction de notre vécu ?
Bien sûr, oui. L'émotion, c'est à la base de la vie. C'est ce qui fait de nous des êtres vivants. C'est ce qu'on partage avec tous les vivants. L'émotion, c'est ce qui nous pousse à, c'est ce qui nous meut. Voilà. Et tant que chez l'homme, ça va énormément se complexifier. Mais finalement, il y a des formes basiques d'émotion. Et je dirais que la vie, et c'est ce que m'a appris mon travail, se joue entre deux émotions fondamentales, finalement, la peur et la confiance. La peur étant aggravée par la solitude. Alors après, bien sûr, il y a, heureusement, et les artistes sont là pour vous montrer qu'il y a une variété d'émotions très diverses, mais la base, c'est quand même ces choses-là.
Ces émotions qui guident notre vie, pourquoi nous rendent-elles fous ? Pourquoi est-ce qu'elles nous font basculer ?
Oui, eh bien, elles nous font basculer parce que, et ça sont à la source de la peur. D'ailleurs, de toutes les maladies dites psychiatriques, c'est la peur. Et une nécessité de répondre à la peur. Mais derrière tout ça, il y a un point commun, c'est que ces symptômes sont pas là pour embêter les autres, contrairement à ce qu'on croit, ils sont là pour être moins mal. Et c'est pour ça qu'ils y adhèrent, et qu'on arrive à adhérer à des croyances les plus invraisemblables, à des délires, parce qu'en étant comme ça, il y a moins d'angoisse. C'est un moyen d'être actif, voilà.
De et prendre là, sa vie en main, quelque part.
D'une certaine, mais qui n'est pas choisie, qui est imposée
et qui est négative,
par la peur,
parfois,
par le tempérament, et qui est pathogène, sinon pathologique, parce que toutes ces conduites nous coupent des autres.
Voilà. Alors, c'est ce que vous dites, parce que le pessimisme ambiant actuel, la culture du négatif, influe sur nos émotions. Nous sommes, comme ça, habités par des peurs, et c'est par la peur que notre système de défense, notre instinct de survie, nous fait déborder. Vous expliquez qu'un sentiment de peur, renforcé par la solitude, accentue d'une part notre fragilité, mais peut provoquer ce que l'on appelle une décompensation.
Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de tempéraments différents liés à notre génome, eh bien nous pouvons effectivement, quand on se sent menacé, développer des modes de comportement que j'appellerais destructeurs, qu'on ne choisit pas, personne ne choisit d'aller mal. Ouais. Mais ça s'impose, et quand ça s'impose, on se sent moins mal, tous ces troubles nous coupent de ce qui fait la vie, c'est-à-dire l'échange avec les autres. La vie, c'est une co-création. Donc plus vous restez seul, moins vous vous nourrissez des autres, plus vous avez peur, et c'est ça qui est pathologique. C'est l'enfermement, c'est pas d'avoir un trouble, c'est de ne plus pouvoir en sortir, non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on n'a plus les moyens de le faire.
Est-il possible que vous, nos invités en plateau, moi-même, puissions un jour brusquement basculer dans une forme de folie, après un choc ou après une grosse contrariété. Est-ce que ça, c'est possible?
Oui, bien sûr.
Pardon, Raphaël?
Voilà. Qu'on ne le soit pas déjà. Voilà, oui. Absolument. Non, c'est... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que c'est possible, mais ce n'est pas n'importe qui et pas n'importe quoi. On ne choisit pas son mode de folie. Ouais. C'est là où joue le biologique. Et il faut sortir de tout ce qui est dualiste. Là, je voudrais quand même insister. La pensée dualiste, on adore. Il y a le bon, il y a le mauvais, il y a le vrai, il y a le faux. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est une tension entre des contraires. Et c'est là où tous les progrès de la biologie nous montrent l'extraordinaire complexité du vivant, qui ne va pas vers la mort, le vivant. Le vivant vers la transmission. Tout est organisé. La mort, c'est une invention humaine. On n'a pas le temps de développer, mais bon. Parce que nous, on est conscients de nous. Les seuls êtres vivants à être conscients de nous, et on va voir qu'on va disparaître. Ouais. Mais le but de la vie, c'est de transmettre. Depuis les végétaux, depuis la première cellule, les humains, nous transmettons. Tout ce qui est de la vie, on ne le maîtrise pas. Dès que vous commencez à maîtriser le vivant, vous le tuez. Ben, si vous dites « je t'aime tellement que je t'enferme », c'est pas bon, ouais, pour l'amour. Oui, on ne peut pas maîtriser le vivant. Il y a une chose que l'être
qu'est-ce
humain
qu'on fait,
est
alors,
le seul.
Philippe.
Mais quand on a trop peur, qu'on a besoin de, ouais, maîtrise, la seule solution, c'est de détruire. La seule façon d'être sûr du résultat de l'examen, c'est de pas le passer. Non, mais voyez la
tentation
humaine.
Ça, c'est ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire, alors?
Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est se dire que la vie, justement, c'est la transmission. Elle sera majoritairement ce que nous allons la faire, et au lieu de pleurer sur la mort, eh bien, c'est-à-dire, ouais, comment on organise une vie sur laquelle on puisse s'entendre sur des moyens
et
communs,
c'est
l'essentiel
ça.
Et échanger.
Sans maîtriser forcément l'existence.
Sans vouloir maîtriser,
d'accord,
voilà. Et donc, je dis que la folie, elle n'existe pas.
On va laisser la parole à Jérémy Lagniel, qui n'est pas fou, je ne crois pas, au Québec. Que voulez-vous dire à Philippe Jamais?
Bon, ben, c'est encore drôle pour la folie, on verra bien un peu plus tard. Mais disons qu'à prime abord, hein, il ne s'agit pas là d'un livre que j'aurais ouvert de mon plein gré, simplement par manque d'intérêt, on va être honnête ici. Mais j'ai pourtant aimé découvrir surtout le psychanalyste et l'essayiste que j'aimais, sans pour autant le suivre assidûment dans toutes les méandres de sa réflexion. N'en demeure pas moins que plus il était présent dans le texte, plus je l'étais dans la lecture. C'était quand même assez intéressant à lire.
Alors, nous avons en nous cet instinct animal de protection, Philippe Jamais, qui organise notre vie. Vous prenez l'exemple des suricates. Adorables bestioles du sud-ouest africain, on les surnomme les sentinelles du désert. Les suricates, comme nous, sont en alerte face aux dangers et aux agressions. Sauf qu'ils ont trouvé la solution, eux, pour vivre pleinement sans se soucier de la peur. Ils délèguent leur surveillance.
C'est là où on voit l'extraordinaire, là c'est un exemple parmi des milliers, plus au fond la science avance et on comprend ce qui fait la vie, plus on s'aperçoit de ce génie de la vie qui inspire le respect indépendamment de toute croyance, ça inspire le respect. Et nous, nos petites créations, elles sont magnifiques,
oui,
c'est formidable, mais on les survalorise. Hein. On survalorise notre pensée par rapport au poids de ce biologique qui a permis à partir de la première cellule d'arriver à ce que nous, maintenant, nous avons conscience de nous-mêmes et nous sommes capables de remodifier le monde et notre environnement, malheureusement pour le meilleur, mais aussi pour le pire.
Mais alors,
c'est parce qu'on peut créer qu'on peut détruire, ça va ensemble.
Alors, tout ça, c'est très positif, hein, Philippe Jamais. Vous êtes dans une optique très positive, hein,
oui,
ça, on l'a constaté.
Mais oui, il vaut mieux que profiter de la vie. Hein.
Oui, d'accord, mais enfin, votre livre,
façon,
en tout cas, il raconte des choses qui sont assez dures, si je peux me permettre, parce que vous racontez que les émotions, elles sont régies par les menaces.
Oui.
Toutes sortes de menaces, sentimentales, sociétales, professionnelles, toutes. Dès que la menace est trop forte, on retrouve l'agressivité primaire.
Oui.
Et les suricates, ils ont leur sentinelle qui surveille tout.
Voilà.
Et quand la sentinelle est là, comme ça, sur un petit talus, et surveille aux alentours, eh bien, tout le monde va qu'à ses occupations. Enfin, tous les animaux se font ce qu'ils ont à faire. La sexualité, ils vont manger, ils vont s'amuser. Voilà. C'est ça, le truc.
Fait.
Et
mais
sinon,
oui,
ils deviennent agressifs.
Mais oui. Et dès qu'on est menacé, on devient agressif. Et l'agressif, ça se traduit, justement, pas par aller vers l'autre, parce que là, on ne le maîtrise pas, mais par le renfermement. Et c'est le cycle de la destructivité. Et la destruction, c'est le contraire de la vie. Ça appauvrit tout.
Alors, vous écrivez, Philippe Jamais, « Quelle que soit notre douleur, nous avons le pouvoir de choisir comme valeur la vie plutôt que le désespoir. »
Oui.
C'est un peu
oui,
facile à dire, ça, non?
Oui, facile à dire, tout
ouais,
à fait. Oui, oui, oui.
Parce que quand on a perdu l'amour de sa vie, qu'on a la
bien
rue
sûr,
ou autre,
bien sûr,
c'est dur hein, de
très
se raccrocher.
Dur, très
à...
dur. C'est pour ça qu'il ne faut pas être seul. Qu'il faut le partager.
Et si on est seul, qu'est-ce qu'on fait alors?
Et on essaie d'aller vers les autres. Il y a toujours des autres près de nous. Et là, on le sous-estime, vous voyez. Et que bien sûr que c'est très très triste. Mais c'est pas parce qu'on arrêtera de vivre que ça empêchera ça. Je cite l'exemple de, à propos du Bataclan, de ce très beau texte de Michel Léry. C'est que, bien sûr que c'est épouvantable tout ça. Mais quoi, on va gémir là-dessus? On va donner à ceux qui ont détruit le pouvoir de modeler la vie future? Non, la vie doit reprendre. C'est pas oublier la tristesse de ce qu'on les fait vivre au travers de notre vie.
Annick Dor, en Belgique, touché ou pas par cet essai sur les émotions et la folie?
Tout à fait touchée, moi, oui, tout à fait. J'ai trouvé que, d'abord, ce qui ressort, de la lecture de ce livre, c'est vraiment votre profonde empathie pour les patients que vous avez rencontrés pendant toute votre pratique clinique. On sent vraiment que vous y avez mis tout votre cœur et toute votre intelligence. Alors, j'aimais aussi cette absence de condamnation morale, hein, l'idée que personne n'est coupable d'un dérèglement émotionnel. À vous lire, on se rend compte que la frontière finalement entre le normal et le pathologique est beaucoup plus perméable qu'on ne le croit. Et puis on réalise aussi justement à quel point on se construit dans l'interaction avec les autres, et ouais, dans l'ouverture à la vie et plutôt qu'au repli. Et surtout qu'on peut changer aussi, ce qui est quand même une belle leçon.
Ouais, il est tout à fait d'accord avec vous, Philippe Jamais. C'est vrai que vous parlez beaucoup de l'échange, de la différence qui sont les pivots de la vie. Il faut se nourrir des autres et vivre la différence sans inquiétude. Vous écrivez « La peur de la différence entraîne toutes sortes de conduite destructive. »
Mais oui, parce qu'elle nous échappe. La différence, c'est immédiatement. Mais si on peut être différent de moi, alors est-ce que je suis moins bien ou plus ? C'est-à-dire qu'on peut toujours se comparer du fait de cette activité réflexive que nous sommes les seuls sur Terre à avoir. C'est ça, la psyché. C'est pas d'avoir des représentations, ni un langage, les animaux en ont. Mais nous, nous sommes conscients d'être conscients de nous. Et là, on va voir qu'on pourrait toujours avoir plus, qu'on va tout perdre parce qu'on va mourir, qu'il y en a qui ont plus. Et là, ça nous rend fous.
Et on s'empoisonne la vie.
Et on s'empoisonne la vie et celle des autres. Mmh. Et c'est là où il faudrait... On est comme ça. On va pas le supprimer, mais on peut apprendre à jouer. Voyez, jouer. C'est pour ça que je dis le grand remède, c'est le théâtre, peut-être. C'est-à-dire, prends ton rôle, mets-toi à ma place. C'est ça qui peut permettre de sortir de la confrontation. Toi, tu es mauvais, toi, tu es pas bon. Et dès qu'il y a des différences, vous rendez compte les peurs encore. Et en même temps, ce qui nous fait être racistes, c'est pas la réflexivité, c'est la peur. Et cette peur va conditionner notre capacité réflexive. C'est qu'on est sous influence émotionnelle. Voilà.
Vous parlez aussi de ces artistes et de ces écrivains qui se sont nourris de leur perception de la médiocrité. Avec des enfances ratées notamment, vous évoquez Jean Genet, Houellebecq, qui font des émules et qui à leur tour contribuent, vous dites, je cite, à cette merdification. Vous êtes très énervé contre les écrivains pessimistes.
Un petit peu, un petit peu. En même temps, au fond de moi, je les aime bien, comme pour bien des patients. Je veux dire, parce qu'ils sont malheureux, on le voit, ils sont malheureux. Bon, mais il faut pas faire de son malheur quand même un modèle de vie, parce que ça va quand on a derrière soi d'autres exemples, une enfance différente. Mais pour ceux qui sont les plus fragiles, eh ben, c'est leur dire, voyez, de toute façon, tout ça, ça aboutit à la merde, ça aboutit à la mort, ça vaut pas la peine. Et en plus, quand ça permet de vivre pas trop mal, enfin, il y a quelque chose. Oui, on sous-estime la fragilité.
Alors justement,
de ceux à qui on s'adresse.
Raphaël, oui, a publié un recueil de nouvelles très sombres. Il va peut-être vous énerver tout à l'heure.
Non, mais juste, quand même, juste sur Genet et Houellebecq, parce que c'est tellement sublime. En tout cas, de mon point de vue, c'est d'une telle beauté que c'est l'inverse de la. Moi, ça m'apporte un tel réconfort de lire des choses comme ça. Et puis, je trouve qu'en plus, j'aime beaucoup ce que vous dites, je trouve ça très beau, mais je trouve que la peur, elle vient pas du tout de... C'est pas Jean Genet ou Houellebecq qui distille la peur dans la société. C'est chaque seconde...
Non, c'est pas ce qu'il a dit. Hein,
non, mais
qu'il a dit.
C'est chaque seconde où on allume un téléviseur, une information, une nouvelle, où tout est une espèce de caisse de résonance de la douleur, de l'atrocité, de l'effroi.
Mmh. Ouais. Alors, on va pas faire le débat sur Genet. Ouais. On va en parler tout à l'heure, parce que Raphaël, effectivement, a un recueil de nouvelles qui est assez sombre, qui est poétique aussi, qui est comme ça un peu...
Il ressemble à cette époque, je
voilà,
trouve.
Voilà, oui. Après, on verra avec Philippe Jamais si ce que vous dites, s'il y adhère ou pas. D'accord ? On fera le débat.
Bien sûr, je suis d'accord.
Merci Philippe Jamais. En tout cas, quand nos émotions.
C'est très intéressant ce qu'il disait, je trouvais ça magnifique, mais juste sur Genet et Houellebecq, je me permets de.
Quand nos émotions nous rendent fous, c'est paru chez Odile Jacob. C'est absolument passionnant. On apprend et on réalise beaucoup de choses. On reparle de ça avec vous dans un instant. Petite interlude dans cette plus grande librairie du monde. On part en France avec Grégoire Courtois. Et très rapidement, un gros coup de gueule, Grégoire.
Très rapidement, gros coup de gueule au rayon jeunesse à nouveau, hein, comme Laura, parce que c'est vrai que là, je suis consterné par la tendance qu'ont les éditeurs, et j'ai personne dans le viseur en particulier, mais de plus en plus, on voit des bouquins qu'on ne peut pas seulement lire, mais aussi qui ont une espèce d'application sur des téléphones, des tablettes, etc. Et de plus en plus, on nous demande dans les librairies de faire entrer les écrans dans les librairies, notamment au rayon jeunesse. À la rigueur, les adultes, ils font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de réaliser. Augmentée, pourquoi pas. Mais les enfants, je trouve que c'est quand même très très dommage, puisque le livre aujourd'hui, c'est quand même ça l'objet magique.
Bien sûr.
Ce qui est exceptionnel, c'est de ne pas avoir d'écran. Et du coup, je me dis aux éditeurs, arrêtez, préservez au moins ça, et puis après on verra pour les adultes.
Arrêtez avec les écrans, lisez des livres, c'est clair. C'est notre combat ici depuis plein d'années, plus de 10 ans. Et effectivement, on protège l'objet livre. Merci Grégoire. Jérémy Lagnel au Canada, coup de gueule ou coup de cœur ?
Coup de gueule, Emmanuel. Est-ce que la littérature littérature doit être divertissement? Divertissement, c'est la grande question. Oui. C'est l'en est une. Mais reste que je ne réponds pas présent quand ce pseudo-divertissement est d'un ridicule ostentatoire et vulgaire. Oula. Et avec plus folle que ça, tu meurs, Denise Bombardier, écrivaine quand même connue au Québec et en France.
Ben oui,
elle
partout.
Partout, disons-le.
Ben oui.
Elle a, semble-t-il, voulu s'éclater. Celle qui pourtant peaufine depuis plusieurs années un personnage intellectuel et littéraire, elle nous livre ici un Sex and the City de sexagénaire où, sans nuance aucune, on prend des raccourcis soi-disant comiques pour dépeindre les relations hommes-femmes et l'art de la séduction pour, au final, nous livrer un roman d'une grande inutilité. Vraiment, on n'avait pas besoin de ça sur nos tablettes.
Bien, elle va être ravie, Denise, que je salue au passage. Grande fidèle de la librairie francophone, Denise Bombardier, mon plus folle que sa tumeur. Ça ne passe pas chez vous, mais elle sait distraire un très large public. Denise Bombardier, éternel débat sur ce que produit Denise, elle le sait très bien, évidemment, de son côté. C'est aux éditions Flammarion pour l'Europe et aux éditions Édito pour le Québec. Merci, hein, Jérémy. On vous envoie ces courriels, d'accord ?
Avec plaisir.
La librairie francophone avec Alain Berenbaum, Philippe Jamet et Raphaël. Raphaël qui est installé au piano à queue noire dans notre studio pour une version inédite d'un extrait de son album Somnambule. Voici Sur mon dos en version acoustique pour la librairie francophone.
Ce soir, nous nous battons pour rien. Rien d'autre que pour nos poings. On pisse ensemble sur le trottoir où nous irons tomber plus tard. Mais je te porte sur mon dos, je te porte sur mon dos. Je peux sentir tes os. Je te porte sur mon dos, je te porte sur mon dos. Le contact de ta peau. Tu as embrassé ta mère sur le front. Nous ne buvons jamais avant midi. Dans nos sacs, les walkie-talkies. Tu abordes ton père dans son lit. Mais je te porte sur mon dos. Je te porte sur mon dos. Je peux sentir tes os. Avec nos lampes torches dans la nuit, la fréquence des walkie-talkies. On se suit, on se suit. Ce soir, nous nous battons pour rien. Rien d'autre que pour nos poings. Les coups qu'on prend, on les rendra. Les coups qu'on prend, on les rendra. Et je te porte sur mon dos. Je te porte sur mon dos. Je peux sentir tes os.
Raphaël, que vous pouvez applaudir ici en studio avec Sur mon dos depuis le studio 621 de Radio France, au piano donc ici sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter, il est réinstallé en plateau. Merci Raphaël.
L'écrivain est de retour.
Il est de retour, l'écrivain est de retour. Attention, il est prêt.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Le chanteur devient écrivain, Raphaël Haroche, est dans la librairie francophone pour Retourner à la mer, paru aux éditions Gallimard. Il y a une tonalité impressionniste dans ces courtes histoires, Raphaël. Des sortes de méditations aussi, qui portent un regard sur la société, regard assez sombre. Le massacre des animaux dans les abattoirs, première nouvelle. La violence faite aux sans-domicile dans la rue également. Le regard désabusé de certains de vos personnages sur la société. Il est où l'espoir, Raphaël ?
Je sais pas, c'est-à-dire je me pose pas tellement la question de comment je vais pouvoir matérialiser l'espoir en racontant des histoires. J'essaie juste de raconter les histoires que j'ai en moi. Et je trouve que je me dis pas non plus que c'est spécialement sombre. Il y a des histoires qui sont franchement marrantes dans les nouvelles, en tout cas d'après moi. Après, chacun son humour peut-être, mais
non, il y a de l'humour.
Moi, ça me fait marrer. Ouais. Mais on m'a souvent dit ça de mes chansons. On a souvent dit ça, mais c'est vrai que. Puis je suis souvent attiré aussi par ça. C'est vrai que si on lit, évidemment, je me compare pas à des grands écrivains, mais si je lis des nouvelles de Maupassant ou de Tchekhov, ça parle toujours. C'est toujours des histoires dramatiques. Quoi. Les plus belles histoires de Tchekhov, c'est un, je sais pas, un enfant ébouillanté. Enfin, c'est des trucs. C'est, il y a toujours quelque chose à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi moi je parle d'une histoire. Il y a un petit quelque chose qui fait que ça cristallise. Et ça peut être effectivement la première nouvelle, c'est l'idée d'un veau seul dans un abattoir pour la nuit. Voilà, c'est juste cette vision-là. Ouais. Et ensuite, on raconte un petit peu avant.
Et vous déclinez.
Un petit peu après. Ou l'autre, la seconde nouvelle, c'est l'histoire d'un. Moi, j'ai fait des centaines de concerts, j'ai été des centaines de fois sur des scènes. Et je vois toujours les videurs dans les crash barrières, c'est-à-dire l'endroit qui se trouve entre la scène et le public, qui sont avec des bouchons et qui sont dans une temporalité tellement différente du public et des gens sur scène que ça m'intrigue et j'essaye d'imaginer la vie d'un de ces mecs. Voilà. Est-ce que c'est des choses comme ça. Je trouve pas ça si sombre, moi. Ce que je trouve sombre.
Disons que tout va mal quand même, hein, parce que même les moineaux, à un moment, il y a des moineaux qui arrivent sur une voiture, ils sont pelés, ils ont l'air malades.
Vous parlez d'une nouvelle où c'est un type qui est à la rue qui parle. Les mecs qui sont à la rue, on en voit tous les jours, je pense qu'ils ont sans doute cette vision-là, ils vont pas très bien. Moi, j'ai croisé un clochard là, il y a une semaine, je lui ai parlé. J'ai dit, il faisait très froid. J'ai dit, vous avez pas froid? J'ai dit, mais non, ici, il fait chaud. Moi, je suis polonais. J'en ai rien à foutre. Donc, il avait pas tout à fait, il était pas aussi, peut-être.
Il y a la plus belle fille du monde aussi.
Mais ça, c'est amusant, non?
Personne.
Non, ça vous... Non, moi, je sais.
Si, non, mais c'est juste que la plus belle fille du monde, pas de bol, elle est nazie. Donc,
ça s'appelle une blague, ça. C'est quand même plutôt marrant.
C'est horrible, quoi. Le type tombe sur la plus belle fille du monde. Il se dit, j'ai envie de coucher avec elle. Il arrive finalement, il se fait draguer par la fille et il découvre, étant lui-même juif, qu'elle est nazie, qu'elle est complètement fasciste. Enfin, c'est une horreur absolue. On est désespéré.
Non, on n'est pas désespéré. C'est évidemment une histoire inventée, amusante. Ça montre simplement que on peut accepter beaucoup de choses quand on est attiré par quelqu'un physiquement. Parce que le mec, très lâchement, est prêt à plus ou moins acquiescer parce qu'il a envie de coucher avec elle. C'est une blague. Enfin, après, je sais pas. Je suis désolé si je vous ai attristé.
Pas du tout. Mais je vous connais bien, Raphaël. Vous savez très bien. Puis je suis fan de ce que vous faites. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a une petite noirceur comme ça et aussi un grand questionnement sur le bonheur possible. Il y a beaucoup d'entraves au bonheur aussi avec vos personnages qui sont toujours sur le point d'y renoncer, sauf que vous vous arrêtez à temps. Vous arrêtez l'écriture et finalement, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. On ne sait pas trop s'ils vont renoncer ou pas au bonheur. Vous êtes dans ce doute vous-même?
Non, les nouvelles, c'est souvent des choses un peu suspendues. Il n'y a pas de début, il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas de chute, comme vous dites. Et donc, c'est la promesse de pas grand-chose. C'est un moment, comme ça, en suspension.
Ouais.
C'est un livre qui s'intéresse au monde, ça s'intéresse aux gens, ça les regarde. Il y a tous les milieux sociaux, c'est ce qu'on voit. Je sais pas. Et puis, je pense que c'est un livre, en tout cas, qui me ressemble. Alors, peut-être que je dois être très sombre. Mais
est-ce que c'est la
je
peur,
me vois vraiment dedans.
Comme disait le docteur Jamais tout à l'heure, est-ce que c'est la peur qui conduit comme ça à des réflexes de survie, voire à une forme d'écriture en ce qui vous concerne?
Je sais que effectivement, sûrement dans les nouvelles ou même quand on fait un film ou des choses comme ça, on a envie de parler des choses qui vous inquiètent le plus. Je sais que je me rappelle, j'avais vu ce truc de Haneke, la Funny Game par exemple, et je sais que son processus de travail, c'est vraiment, il essaie d'imaginer la chose qui l'effraie le plus. Et il l'attend, et c'est de ça dont il va parler. Et je peux comprendre cette chose-là.
Ouais.
Très bien. En chanson, c'est une autre voix complètement. C'est vraiment un truc de la légèreté, la chanson. Il faut oublier la gravité pour être capable de faire de la musique. C'est vraiment, il faut planer à 4000.
Ouais.
Mais je trouve que dans l'écriture, on peut se permettre d'affronter des choses un peu effrayantes. Un peu, par exemple, il y a une nouvelle où un père alcoolique part, ça va pas donner envie aux gens, mais part avec son fils dont il a la garde pour une semaine en vacances et il va y avoir un accident de voiture.
Ouais, un terrible accident.
Bon, et c'est vrai que ça, être impuissant face à la souffrance de son enfant, quelque chose, enfin, ça finit bien, je le dis quand même pour les gens, mais c'est la peur ultime d'un père, voilà, bien sûr. Donc évidemment, je m'imagine moi et j'imagine mes enfants, mais après, je trouve qu'on vit dans un monde, moi j'en souffre un petit peu dans la musique, c'est que on ne peut plus rien dire. C'est-à-dire que tout est fait pour dire c'est le bonheur, c'est la vie est belle, c'est super, les émissions s'appellent La vie est belle, les chansons s'appellent La vie est belle, les trucs, c'est tout le monde est gentil, joli, mignon, comme c'est sympathique et tout ça.
Pas ici, vous l'avez compris.
Non, pas ici.
Tout va bien.
Mais il y a cette espèce de volonté générale de flux de divertissement qui est simplement pour vendre de la réclame entre deux chansons. Et je trouve que c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre des artistes. Alors c'est vrai que on est plus heureux quand on est heureux, plutôt quand on se plaint ou je sais pas quoi. Moi si j'allais dîner avec vous, j'irais pas me plaindre, quoi. J'irais boire un verre et je serais peut-être même marrant par moment.
Philippe Jamais, pas sûr. Il s'adresse à vous là, ouais.
Mais oui.
Non, il y a une image pas tellement positive dans notre société. On confond l'excitation avec le positif, le bonheur, le plaisir. C'est pas l'excitation, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, de tendresse, de, mais c'est toute cette dimension là qu'on trouve pas tellement justement dans notre société. Alors ou c'est l'excitation, ou c'est les choses très violentes qui surexcitent et dramatisent, et on n'a pas de temps pour la tendresse. Et le cas d'important, c'est que derrière toute émotion forte, il y a son contraire.
Il y a de la tendresse, hein, d'ailleurs, dans vos nouvelles, Raphaël.
Bien sûr qu'il y a de la tendresse, il y a même que ça.
Oui.
Dans chaque histoire, il y a de la tendresse. Chacune de ces histoires. Ouais. Chacune de ces histoires, il y a un monde qui est assez difficile et c'est racheté par le contact de la peau, un regard, un truc amoureux,
et l'échange avec l'autre aussi. Parce que vos personnages, ils vivent avec les autres. Il y a forcément toujours, comme on le disait tout à l'heure avec le docteur Jamais, ce besoin d'aller vers l'autre. En tout cas, d'être entouré des autres.
Ouais, je pense qu'il n'y en a qu'un seul qui est seul, c'est le... Non, enfin, oui, sûrement. Enfin, il y a cette histoire assez difficile d'un garçon de mon âge avec sa vieille maman, et qui en a honte comme un écolier aurait
c'est
honte
la dernière. De retourner à la
de
mère.
Sa mère qui vient de le chercher. Ouais. Et il y a un truc un peu... Il y a quand même quelque chose sur l'incommunicabilité. Sur des,
oui, mais il faut savoir qu'il y a une communicabilité. Pour se sentir incommunicable, c'est qu'il y a quand même...
Non, mais voyez, c'est que l'autre est présent. Sur le terme.
Psychiatrique. Non, mais simplement, c'est que quand on se sent seul, c'est qu'il y a l'idée de quelqu'un. Les gens qui vous disent « je n'aime rien », c'est qu'ils auraient envie de tout.
Bah oui.
Vous voyez, c'est ça les contraires de la vie qu'il faut arriver à comprendre.
Bon. Mais moi, c'est des histoires, donc c'est, j'ai vraiment pas de but de... De faire en sorte que les gens se sentent mieux ou moins bien, ou comme c'est juste des histoires.
Il y a une jeune fille qui est dans un train dans cette nouvelle dont vous venez de parler, là, Retourner à la mer. Elle est dans le train comme ça et vous la décrivez comme ayant l'air suisse. C'est quoi une jeune fille qui a l'air suisse, Raphaël? Je rappelle que nous sommes diffusés sur France Inter, la RTBF, la RTS, Radio-Télévision Suisse.
Je sais pas, c'était une blague, quoi.
L'air suisse.
Quelque chose d'un peu tatillon, je crois que je précise.
Très bien, on va voir si nos libraires sont tatillons justement à travers le multiplex de la librairie francophone. Il y a la Suisse justement, on va commencer par le plus méchant de la semaine. Et ce n'est pas Grégoire, non, contrairement à ce qu'on croit. C'est Jérémy Laniel au Canada, ça ne passe pas vraiment chez vous ce livre.
Non, mais il y a toujours un petit suspense hein, lorsqu'on découvre un nouvel écrivain, lorsqu'on rentre dans un univers qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. C'est rempli de possibilités, d'espérance. Et je dois dire que je ne connaissais absolument pas l'œuvre de Raphaël, le chanteur, le musicien que j'ai entendu avec plaisir il y a quelques instants.
Il ne connaissait pas Alain Chamfort, hein, déjà, je vous rassure. Il nous a déjà fait le cours avec Alain Chamfort.
Faisons l'apologie de ma non-connaissance musicale. Allons-y.
Poursuivez.
Par contre, ici, j'ai trouvé des histoires un peu ténues, mettant en scène des personnages que j'ai trouvé assez unidimensionnels. Au moins, la nouvelle, hein, c'est une forme qui promet toujours de nouveaux recommencements. Mais ici, j'ai pourtant trouvé un recueil complètement vide de la concision essentielle à la qualité du genre. C'est un genre qui est peut-être, à mon avis, là, l'un des plus difficiles à maîtriser. J'avais l'impression de lire des ébauches de romans superflus qu'on n'avait pas vraiment voulu développer ou aller au bout des choses.
Vous êtes très désagréable.
Non, il est très désagréable.
Vous êtes très déplaisant.
Laura Sanchez est en Suisse et elle n'est pas d'accord, Laura.
Non,
elle a l'air suisse, mais elle n'est pas d'accord.
Je ne suis même pas vexée que vous trouviez les Suisses tatillons. Ça, je voulais dire quand même.
Allez-y,
oui,
Laura.
Alors, pour moi, ces nouvelles, c'est autant de petits contes cruels, mais chargés de la cruauté de notre monde contemporain. Vous nous donnez à lire des destins de gens fragilisés, qui sont le plus souvent dans l'ombre, parce que leur malheur est devenu banal. Et là où ce recueil de nouvelles est pour moi réussi, c'est que sous votre plume, ils deviennent des perdants magnifiques pour un temps très bref. Juste celui de ces courts textes aux chutes implacables.
Voilà, il y a des chutes, oui.
Ouais, quand même.
Oui, des chutes.
Merci, c'est gentil, je suis content que ça vous ait plu.
Il y a cette nouvelle, Restez au lit, Raphaël, avec cet homme qui angoisse. Il pense être inutile, justement, sous les yeux du docteur Jamais qui nous surveille. Un homme inutile, médiocre, il a peur de la mort, mais il n'est pas motivé par la vie. Même s'il a conscience, comme ça, d'être à l'abri, de ne pas avoir de problème majeur, il dira, je me dis aussi qu'on ne connaît jamais vraiment complètement les gens avec qui on vit.
C'est un type qui a une angoisse, quoi. Ouais. C'est tout.
C'est tout.
Moi, je sais. J'ai pas écouté la question, excusez-moi.
Il n'y a pas de question. Sur son lit, en tout cas, il dit que c'est le rempart. Le lit, c'est le rempart. Vous l'écrivez ça. C'est le rempart entre lui et la méchanceté du monde.
Il pense effectivement à la méchanceté du monde. Je ne sais quoi. Je me rappelle plus exactement en détail des choses qui lui passent par la tête, mais c'est une sorte de mauvais rêve éveillé, quoi.
Ouais. Il y a un entre-deux comme ça tout le temps hein, dans ces histoires, avec, vous le dites à un moment, une mince couche de réalité, peut-être intercalée comme ça entre d'autres existences plus anciennes, la réalité qui n'est pas forcément celle que l'on croit.
Ouais, parce qu'il y a ça, ça fait référence à une nouvelle où c'est deux enfants, deux frères. Et souvent, enfant, on a cette sensation un peu d'irréalité, de conte dans le conte, de rêve dans le rêve, comme ça. Il y a une phrase où je dis que les choses se referment, les fontanelles, et c'est les sas qui se referment. Mais oui, bien sûr, je crois beaucoup à ça.
Et vous vivez dans quel monde, vous, Raphaël?
Je ne sais pas trop comment répondre à cette question.
Vous vous sentez comment, là?
Non, mais moi, je me sens très bien. Je me sens... J'essaye de m'intéresser aux gens, déjà d'aider les gens autour de moi, quoi. Un peu, je crois que c'est la meilleure chose qu'on ait à faire. Ensuite, je fais des choses. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. C'est un peu le principe. Quand même, tout est relativement... C'est une grande banalité, mais on n'a pas trouvé mieux. C'est affaire de goût et de couleur.
Oui.
Voilà, je sais pas...
Vous avez été souvent soumis à la critique, vous, hein, d'ailleurs.
Pas tant que ça, pas tant que ça. Oui. Mais après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, évidemment, ça ne me gêne pas, mais j'aime pas tellement d'être confronté aux critiques. C'est-à-dire que les gens écrivent tout le temps des choses. C'est-à-dire que vous allez sur Internet, c'est un déversoir d'injures permanent, c'est dégueulasse, c'est nul, qui crève, ou je sais pas quoi. Ce n'est que ça. Mais convoquer les gens pour leur dire que ce qu'ils font est nul, ça sert à rien. Ils peuvent rester chez eux. Moi, j'ai pas besoin d'être confronté à ça, ça m'intéresse pas.
La critique?
En face de vous, comme ça, quelqu'un qui vous critique.
Bah, c'est le débat culturel, ça.
Oui, mais moi, j'aime pas ça, voilà.
D'accord.
J'aime pas y être confronté, c'est tout. Peut-être c'est comme une séance de lutte ou de psychanalyse, ça peut avoir un sens, mais.
Vous ne faites pas référence à notre libraire québécois?
Pas du tout, non, pas du tout. Je fais référence à. Si vous me parlez de musique ou de choses comme ça.
Oui, c'est ça, Bon, allez, le mot de la fin, c'est pour un libraire. Grégoire Courtois, pour la France, allons-y.
Oui, puis moi, je vais être synthétique, en fait, entre Laura et Jérémy, c'est vrai. Je suis un peu entre les deux, puisque j'ai trouvé que le recueil, malgré tout, effectivement, il y a des très très belles choses, très touchantes, et aussi des choses que j'ai trouvées un peu moins bonnes, c'est-à-dire l'ensemble était assez inégal d'après moi, même si, là, c'est catégorique, il y a une vraie voix, il y a une vraie musique qu'on sent, on sait que c'est le même auteur, mais moi, souvent, je me suis demandé est-ce que ça avait été écrit sur une longue période, parce que parfois, je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas la même personne qui a écrit cette nouvelle-là et cette nouvelle-là. Donc voilà, mon jugement est assez mitigé, mais malgré tout, j'attends, comme au poker, pour voir.
Si jamais il y a quelque chose d'autre à voir.
Ouais, bonne question, ça, Raphaël, pour conclure, effectivement. Ouais. Vous l'avez écrit sur quelle période, ce recueil de nouvelles ?
Assez rapidement, d'accord. Quelques mois. Je dirais 3 mois, quelque chose comme ça.
Très bien. Bon, merci beaucoup, Raphaël.
Merci à vous, merci.
On va terminer avec Voltaire, que cite Philippe Jamet, histoire de finir avec un aspect très, très positif et très heureux, puisque c'est l'hymne au bonheur, hein, Philippe Jamet. Voltaire qui disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». C'est pas mal.
C'est aussi simple que
c'est
ça.
C'est aussi simple que ça.
Il vaut mieux essayer d'être bien que mal.
Merci beaucoup, Raphaël. Retourner à la mer est paru aux éditions Gallimard. Un livre, vous l'avez entendu, qui fait débat dans notre équipe. Donc, à vous de vous faire une opinion en allant, bien sûr, dans votre librairie indépendante. On a été ravis de vous accueillir. Merci pour la chanson sublime et cet album qu'on peut trouver encore, Somnambule. À bientôt, Raphaël.
À bientôt. Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de projecteur sur une découverte francophone avec la chanteuse française Achille.
Nina rit-elle depuis les cieux, quand sa voix transperce l'ivoire, Nina danse-t-elle avec les dieux, sous le piano incantatoire. Nina chante son infortune, mais la roue tourne, Little Girl Blue, et sur les plages de la lune, Nina s'endort, Nina s'en fout. Nina diva, divague alors, le bleu dans l'âme d'indigo, ivre de pluie quand ses trésors pense la vie. Avec sa grâce et parfois sans, Nina navigue impatiemment, de passion en désillusion, d'amour perdu en déraison.
Achille qui rend hommage avec son nom à Achille-Claude Debussy, une découverte à retrouver en intégralité sur Internet.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Éric Morin et Stéphane Boja. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Merci beaucoup Alain Berenbaum, Philippe Jamais. Merci Raphaël. À très bientôt. La semaine prochaine, nous serons avec l'ancienne avocate Véronique Sousset pour un récit choc. L'auteur franco-indienne Shumona Sinha et l'académicien Jean-Marie Roire. Bonne semaine à vous, salut.